Julien Traxel.
Donald Trump a une nouvelle fois laissé éclater sa frustration hier envers Vladimir Poutine. Le président américain a accusé son homologue russe de jouer avec le feu. Il a renouvelé ses critiques sur son réseau Truth Social à l'encontre du Kremlin qui a ciblé l'Ukraine ces derniers jours avec des bombardements sans précédent. De leur côté, les autorités russes ont indiqué durant la nuit avoir intercepté plus de 120 drones ukrainiens. La plupart d'entre eux ont pu être détruits dans des régions comme Bryansk, dans le sud-ouest de la Russie, ou à Moscou. Le moustique tigre déploie ses ailes en Valais. Selon les autorités cantonales, cet insecte nuisible étend plus particulièrement sa présence dans le Chablais. Après Colombey-Murailles, Montais, des individus ont été détectés dans le village de Massonger. Dans sa stratégie 2025 présentée hier, le canton du Valais veut mettre en place 5 réseaux de pièges dans ses communes. L'Agence spatiale européenne a ouvert son premier site permanent en Suisse. En collaboration avec l'Institut Paul Scherrer, l'ESA a mis en service hier à Villingen, en Argovie, le Centre européen d'innovation en deep tech spatiale. Ce centre vise à améliorer la transition entre la science et le secteur privé en soutenant le développement de nouvelles technologies de pointe qui peuvent être utilisées dans le domaine spatial. Les partisans d'un marché couvert à la Riponne à Lausanne ne se laissent pas abattre. Ils vont lancer une initiative communale pour que la population puisse se prononcer sur ce projet, un projet qui n'a pas été retenu dans le cadre du réaménagement de la place. Charles III a défendu hier la souveraineté du Canada. Chef de cet État, le roi britannique a prononcé un discours à Ottawa pour la réouverture du Parlement. La démocratie, le pluralisme, la primauté du droit, l'autodétermination et la liberté sont des valeurs chères aux yeux des Canadiens et des Canadiennes, a-t-il déclaré. Une déclaration qui fait écho aux menaces d'annexion du pays de Donald Trump, qui a à nouveau appelé le Canada hier à devenir le 51e État des États-Unis. Le 9e vol d'essai de la méga-fusée Starship s'est conclu hier par la perte de l'immense vaisseau. Après avoir décollé depuis le Texas, l'appareil de 123 mètres de haut, développé par l'entreprise SpaceX d'Elon Musk, est rentré de manière incontrôlée dans l'atmosphère. La fusée, qui aurait dû finir sa course dans l'océan Indien, a probablement explosé lors de sa redescente, selon un responsable de la société. En basket, les Lions de Genève ont mis fin au règne de Fribourg Olympique. Détenteurs des 6 derniers titres de champion de Suisse, les Fribourgeois se sont inclinés cette année en finale des playoffs devant les Genevois. Ces derniers l'ont emporté 3-1. Lors du 4e acte, hier soir, les joueurs du bout du lac se sont imposés 80-74 devant leur public. Temps assez ensoleillé ce mercredi matin en Valais, autour du Léman et le long des Préalpes. Le ciel s'annonce en revanche plus voilé sur le plateau et le long de l'arc jurassien. Des nuages sont attendus un peu partout dans le courant de l'après-midi. Ils emmèneront avec eux quelques précipitations. Les températures maximales s'établiront pour leur part entre 19 et 22 degrés en pleine. Vous écoutez RTS Info, on se retrouve à 4h pour un nouveau point sur l'actualité.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Dans le podcast Crime Suisse, je vous raconte des affaires criminelles qui sont arrivées tout près de chez vous. De Plan-les-Ouates à Zurich, de Tavanne à Lausanne, et au-delà de la violence, de la mort et du sang, il y a surtout des histoires qui racontent notre pays. Des histoires qui nous tendent un miroir. Je m'appelle Antoine Droux et je vous donne rendez-vous un vendredi sur deux dans Crime Suisse, un podcast disponible sur Play RTS et sur les autres plateformes d'écoute.
Une sélection des meilleurs moments de RTS Première, en rediffusion jusqu'à 6h. Vertigo, Pierre-Philippe Cader.
Et Rodolphe Beauchon en régie, bienvenue à vous. Chez Ramu, le soleil est au centre de deux romans. On imagine qu'il a disparu dans Si le soleil ne revenait pas. Et puis dans Présence de la mort, eh bien ce soleil va causer la perte de l'humanité. Présence de la mort fait l'objet d'une adaptation en roman graphique par Karen Ichters. Elle est notre invitée. C'est publié chez Helvétique. On va la retrouver d'ici quelques instants. Nous irons également avec Thierry Sartoretti à la rencontre d'un homme tout à fait étonnant. Cet homme est un Kurde. Il a longtemps vécu en exil. Il s'appelle Shivan Perwer. Et nous allons partir partir à sa rencontre, c'est un chanteur. Avec Michel Ndezé, nous irons à la rencontre d'un photographe. Il s'appelle Colin Delfosse et lui documente l'incroyable ingéniosité des artistes de République démocratique du Congo à Kinshasa. Et ça fait l'objet d'une exposition à la Galerie Focale. Et puis enfin, avec Leila Chomsky, eh bien nous allons nous intéresser à la précarité des artistes dans les musiques actuelles. Et tout part effectivement de cette lettre ouverte de Sarah Oswald, la musicienne, qui dénonçait au fond les conditions de précarité dans lesquelles elle devait exercer son métier. Bienvenue à vous. Et maintenant, écoutez ceci.
Well, I'm in Helsinki now, by the sea, and it is windy, little cold, but nice.
La musique dans Vertigo.
Merci beaucoup. Thank you very much. Take care. Bye.
Il était au téléphone, il se trouvait à Helsinki, face à la mer, par un temps très agréable. Vous avez joint par téléphone un véritable mythe de la chanson kurde, Thierry Sartoretti.
Oui, Pierre-Philippe, 69 ans, quasi la moitié de sa vie en exil, c'est toujours le cas d'ailleurs, loin de sa Turquie natale. Siwan Perver chantera ce jeudi à Genève, salle de l'Alhambra. Les amateurs d'ethnomusicologie connaissent son nom car il est l'un des grands bardes d'Anatolie, issu d'une famille de musiciens autant chanteurs que joueurs de saz, celui avec un long manche. Quant à la communauté kurde, Pierre-Philippe, si je vous dis que certaines de ses vidéos comptent 14 millions de vues, vous aurez une idée un peu de son statut.
En effet, ça fera toujours plus que les miennes. J'en fais pas, c'est pour ça. Que va-t-il présenter à Genève, alors, acoustique ou électrique ?
Eh bien, le champ est vaste, Pierre-Philippe. Comme les plateaux d'Anatolie, on écoute Siwan Perver.
I have a lot of songs. I mean, from...
J'ai beaucoup de chansons, 50 ans de répertoire depuis mon premier album. Et mes chansons sont très populaires. Si vous vous rendez au concert, vous entendrez les gens chanter avec moi. Nous avons un programme particulier, mais il va dépendre des souhaits et des demandes du public.
Le répertoire du chanteur kurde Siwan Perver a longtemps été interdit dans son pays. Est-ce que c'est toujours le cas, Thierry ?
Oui, parfois les chansons d'amour peuvent passer en radio. C'est rare tout de même. Par contre, pas le reste.
Because I sang mostly the protest songs.
Parce que je chante en grande partie des chansons contestataires, des chansons sur le Kurdistan et la liberté, ce que subit le peuple kurde, les brimades, la prison, toutes les mauvaises choses qu'ils font subir aux Kurdes. Mes chansons parlent de la situation. Du coup, elles ont été interdites dans tous les pays qui comprennent une partie du Kurdistan, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Turquie. En Irak, aujourd'hui, la situation est différente, avec une autonomie kurde. Nous pouvons nous y rendre librement, donner des concerts et chanter. La Turquie essaye de changer un peu, devenir plus démocratique. Ils parlent beaucoup, mais nous ne savons pas ce que cela va donner. L'avenir n'est pas très clair.
Siwan Perver, que vous venez d'entendre au téléphone avec Thierry Sartoretti. Alors évidemment, cette interview tombe à point nommé puisque le parti kurde des travailleurs, le PKK, a déclaré abandonner la lutte armée. La situation semble toutefois se détendre quand même un petit peu. Donc pour les Kurdes en Turquie, qu'en pense le chanteur Thierry ?
On va dire qu'il est prudent, Pierre-Philippe. L'histoire a de quoi lui enseigner la patience, la méfiance aussi. Il commence par citer le traité de Lausanne, signé au lendemain de la Première Guerre mondiale suite à la chute de l'Empire ottoman.
You know, after the Lausanne,
depuis le traité de Lausanne, les Kurdes et le Kurdistan ont été totalement interdits. Le Kurdistan a été divisé entre plusieurs pays. Tous les mouvements kurdes ont toujours été pourchassés et détruits par le gouvernement turc. Les directions de ces mouvements ont été éliminées. Ainsi, M. Öcalan se trouve en prison depuis plus de 25 ans.
Mr. Öcalan also in prison, but the Turkish government couldn't.
Cependant, le gouvernement ne veut pas continuer encore et encore la même méthode. Pas loin de 30 millions de Kurdes vivent en Turquie et ils n'ont toujours pas la moindre école. Il déclare ceci, Öcalan, parlez aux Kurdes et dites comment résoudre ce problème. Dites aux gens de déposer les armes et d'arrêter les combats car ce sont des terroristes. Ils ont toujours qualifié le moindre mouvement kurde de terroriste. Nous ne savons pas aujourd'hui ce qui se cache derrière cette nouvelle ouverture. Sont-ils sérieux, prêts à accepter la réalité ou est-ce un jeu politique ? Si c'est sincère, alors la porte s'ouvrira vraiment et je rentrerai dans mon pays.
Shiwan Perwer, chanteur et musicien kurde, à découvrir donc sur la scène de l'Alhambra, c'est ce jeudi à Genève, si vous voulez croiser Thierry Sartoretti.
Oui, j'y serai, Pierre-Philippe Hillam, mais quelle voix.
Ouais, quelle voix, des millions de vues sur YouTube, et cet homme, on n'en parle jamais, alors qu'il pourrait au moins être influenceur, je ne sais pas quoi, non ?
Il est d'une certaine façon.
Bah oui, évidemment. Et ô combien. On va passer maintenant à tout à fait autre chose, imaginez que la Terre se rapproche du Soleil, de façon tout à fait inexplicable et les températures ne cessent de grimper 1 degré par jour. Que se passerait-il ? Eh bien, c'est l'objet du roman de Ramu, Présence de la mort, un roman adapté en roman graphique par celle qui est notre invitée.
L'invité de Vertigo.
Karen Ichters, bonjour.
Bonjour Pierre-Philippe Kader, merci beaucoup pour l'invitation.
Mais merci à vous d'être avec nous dans Vertigo. Ce roman graphique est publié chez Helvétique. On va parler tout d'abord de son choix. C'est un roman qui est, on va le dire, cruellement d'actualité, puisqu'il fait référence à une canicule, bien sûr, puisque la Terre va petit à petit se fondre dans le Soleil, et la température augmente d'un degré par jour, ce qui est évidemment extrêmement considérable. Cela fait référence à un épisode caniculaire des années 20, 1921, je crois, où on a dépassé les 35 degrés à Genève, ce qui s'était absolument, mais alors jamais vu. Évidemment, aujourd'hui, ça nous semble être des températures normales, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. C'est un roman aussi que vous avez ressenti de cette façon, très dans notre actualité.
Oui, bien sûr. L'observation fine de cette chaleur, des événements inhabituels, notamment sur les cultures, les problèmes de plantes qui stoppent leur croissance, l'absence de fleurs, parce que les bourgeons sèchent, et notamment à travers toutes ces observations de la nature en fait, qui commence à réagir en fait, à cette chaleur. Les humains mettent un peu plus de temps à réagir, en fait, ils observent ces choses, mais en fait c'est un petit peu comme aujourd'hui, on se dit « ah mais c'est quand même pas mal cette chaleur ».
Il fait beau.
Et il fait beau. Et surtout, il y a cette beauté. Il y a cette beauté de la lumière, il y a cette beauté du lac qui endort un petit peu les gens. Et on espère des vendanges exceptionnelles parce qu'avec un soleil et une chaleur pareille, évidemment. Voilà, donc on est au début du roman, on est vraiment dans ce déni-là. Et puis assez vite, les choses se gâtent.
Évidemment, puisque les températures ne font qu'augmenter. Alors ça se gâte pour la nature, pour les animaux, ça se gâte pour les humains, et c'est révélateur de nos potentiels comportements dans une telle situation. C'est aussi ça que vous montrez, Ramu.
Oui, tout à fait. Il dépeint des types de personnages sous forme de tableaux qui réagissent chacun à leur manière, en fait, à cet événement tragique. Et c'est pour certains visiblement la première fois qu'ils se posent des questions sur leur vie, ils se posent des questions par rapport à leur place sur cette terre, à leur place dans leur existence.
Votre dessin est en noir et blanc, Karen Ichters, en noir et blanc à l'occasion donc de la publication de ce Présence de la mort, à l'exception de quelques doubles pages avec un très beau bleu. Auparavant, vous aviez publié un livre très en couleur qui s'appelait Entre rouge et blanc, voyage en couleur à travers la Suisse. Oui. Là, vous avez basculé complètement dans un autre genre. Est-ce que c'est le roman de Ramu, Présence de la mort, qui vous a envoyé vers ce style de dessin ? Ou est-ce que ça fait partie des prérequis de cette série de BD ?
Alors, pas du tout. Mon idée de départ, effectivement, part du roman lui-même, mais pas pour son côté dramatique, inéluctable. C'est plus par rapport à l'idée que j'avais de faire des gravures. Je voulais faire le livre tout en linogravure, c'était évidemment beaucoup trop ambitieux.
Ça aurait pris un temps fou, non ?
Voilà, ouais. Oui. En fait, j'aurais dû faire deux fois le travail, parce que le découpage a pris énormément de temps, mais après, il y a eu énormément de corrections, d'adaptations de mon côté sur les illustrations. Et donc, en fait, tout est parti de cette idée de départ de faire de la gravure. Et puis, j'ai vite repris plutôt un dessin à l'encre noire qui donnait un petit peu la même impression. Et puis, le fait de travailler en une couleur me permettait aussi d'aller vers l'essentiel dans le dessin, de synthétiser les formes, de voilà, c'est ce que la gravure permet aussi, parce qu'on n'a pas de nuances, donc il faut pouvoir représenter des profondeurs, toutes sortes de nuances dans le dessin qui peut-être seraient mises en évidence par la couleur, mais là en fait on n'a que le noir et le blanc, que le...
C'est assez aride, au fond, c'est comme l'écriture de Ramu.
Je trouvais que ça allait assez bien, oui.
Ouais.
Oui, c'était un choix assez intuitif dès le départ.
Lorsque vous parlez de gravure, concrètement, ça se fabrique comment pour celles et ceux qui nous écoutent ?
Pour ce qui me concerne, c'était la linogravure. Donc on prend une plaque de linogravure, enfin c'est une plaque en linoléum. On va commencer à creuser avec des outils qui s'appellent des gouges. En fait, on creuse du plein et du vide. En fait.
C'est ça. Et on dessine avec les gouges, en fait, d'une certaine façon.
Voilà. Alors, on peut évidemment faire un dessin sur la plaque. Et surtout, le dessin se fait à l'envers. Parce qu'en fait, comme c'est une empreinte, en fait, la plaque...
c'est un négatif.
C'est un négatif, oui.
Ouais, effectivement.
Et ensuite, on applique de l'encre sur cette plaque, une fois que le dessin est fait, une fois que le dessin est creusé. Tout ce qui est creusé, c'est du vide. Ça ne sera pas imprimé. Donc, tout ce qui reste en surface... reçoit l'encre, ensuite on applique la feuille, on applique une pression, que ce soit par une presse ou moi jusqu'à présent j'ai fait avec un rouleau à pâtisserie qui allait très bien.
Pourquoi se compliquer la vie ?
Voilà, et donc j'ai un rouleau à pâtisserie plein d'encre.
Que vous utilisez encore en cuisine, bravo. Alors, on a compris maintenant votre choix de dessin. Vous parliez du découpage tout à l'heure, et ça m'intrigue beaucoup. Comment est-ce que vous avez lu le roman ? Comment est-ce que vous l'avez découpé ? Quel choix avez-vous opéré ? Et comment ? Parce qu'en fait, lorsqu'on lit votre roman graphique, il y a absolument tout. Mais évidemment, il y a moins que dans le roman.
Oui. J'ai commencé à souligner certaines phrases que je trouvais vraiment magnifiques et puis que je voulais absolument garder dans le roman. À entourer des paragraphes où tout à coup des images mentales surgissaient. Et j'ai commencé à faire des tout petits croquis dans les marges du livre. Et puis petit à petit, j'ai commencé à poser un petit peu ces notes-là dans un cahier. Juste en fait, transposer le roman en notes et en petits croquis en fait dans un cahier. Et puis petit à petit, commencer à imaginer aussi comment la séquence des pages pouvait se faire, c'est-à-dire il faut concentrer l'action sur la double page ou alors réserver un effet de surprise pour le moment où on tourne la page. Enfin, tout ce genre de choses en fait se décide aussi à ce moment-là.
Comme le montage d'un film en fait.
Voilà, exactement, c'est du montage. Oui. Dans ce processus-là, on se rend compte tout à coup qu'il y a des images ou une seule page qui dit autre chose, qui nous sort un peu de l'action. Par rapport finalement à mon adaptation assez simple en fait, qui est juste le compte à rebours de cette catastrophe. Ça venait perturber en fait la compréhension du roman, vu que le fait de garder le texte de Ramu aussi, qui n'est pas toujours évident, qui est très poétique, que je complète aussi vraiment, je pense parfois avec le dessin. Il fallait aussi quand même faciliter cette lecture parce que l'idée de départ de l'éditeur, c'était quand même aussi de donner un accès à Ramu à des personnes en fait qui ne le connaissent pas ou qui n'ont pas l'habitude de le lire.
Avec les particularités de Ramu, notamment ses répétitions.
Oui, c'est un peu comme une ritournelle.
Ouais.
Je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup joué avec ses répétitions. Peut-être indirectement, effectivement, il y a des éléments graphiques que je fais revenir.
Et puis des mots qui dansent en fonction d'une rythmique quelque part aussi.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que j'ai découpé les textes en Au départ, j'avais des grandes bulles, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, des grandes cases, en fait, ouais. Avec beaucoup de textes. Ouais. Et puis, en fait, c'était totalement indigeste.
Donc, vous avez épuré.
J'ai commencé à séparer les phrases et effectivement à les répartir dans les cases, dans certains dessins. Et ça aussi, ça m'a permis d'introduire un certain rythme, effectivement. Et je pense qu'au final, ça sert aussi, ça sert vraiment le roman graphique. Ça permet que la langue de Ramu ne fasse pas si peur. Et puis de l'apprendre plus aussi comme une scansion, comme quelque chose de plus poétique. Et effectivement, d'un point de vue graphique, alors il y a évidemment des éléments qui reviennent. Il y a ce soleil, évidemment, qui est là, mais en fait, il revient aussi de façon plus cachée à travers l'orbite de la tête de mort, par exemple, à la fin, ce genre d'éléments. Ouais. L'œil, voilà, ce sont des petits éléments, effectivement, qui eux aussi font cette ritournelle.
Et alors, pour vous qui nous écoutez, qui n'avez pas encore lu Présence de la mort, lorsque vous parlez du soleil ou de l'œil, il faut comprendre aussi que vous proposez plusieurs plans. On a parlé tout à l'heure de montage, comme au cinéma, mais vous avez aussi différentes focales pour dessiner cette histoire. Mais ça, c'est un choix que vous faites, vous, parce que ça ne correspond pas à ce qui est dit dans le texte. Donc vous avez un regard... Vous, Karen Ichters, sur ce roman, son écriture, la façon dont vous le recevez, est-ce que ça suscite tout de suite des images mentales en vous et vous vous dites, là c'est un plan large sur la ville de Lausanne, puisque ça se passe à Lausanne, là je vais zoomer sur le visage, là je vais faire un plan moyen, que sais-je, enfin, comment est-ce que ça fonctionne?
C'est très intuitif, effectivement. Je pense que ça vient quand même des mots à la base. Bon, évidemment, le texte génère ces images en moi assez intuitivement, mais je crois que c'est aussi comme on Ramu tout à coup présente les choses, et il y a ces images qui viennent tout à coup de gros plans, par exemple, ou quand il y a énormément de petites choses qui se passent dans un seul endroit, par exemple la plage de Vidi, où là, évidemment, ben ça donne aussi l'occasion d'introduire une grande double page avec beaucoup de petites choses qui s'y passent. Et donc, évidemment, on prend ça parce qu'on sait aussi que à un moment donné, ça va rythmer le livre. Entre pages de petites cases, pages avec un seul dessin, grande page. En fait, il faut du rythme dans un livre.
Comment est-ce que vous avez justement travaillé ces images par rapport à la langue de Ramu, notamment dans le cas où, parce que Ramu, il avait un petit côté un peu sentencieux parfois, un côté un peu déclamatoire dans ses textes. Est-ce que vous vous êtes appuyé vraiment, alors au premier degré, sur ce côté un peu sentencieux et déclamatoire, parce que la situation l'exige? On rappelle que la Terre est en train d'aller se fondre dans le Soleil, donc c'est quasiment un épisode biblique que l'on est en train de vivre. Ou est-ce que, voilà, ça n'a pas influencé plus que ça sur votre dessin, sur vos choix?
Non, effectivement, surtout il y a cette fin un petit peu plus religieuse dont j'avais pas envie.
Dans le roman.
Voilà, qui est assez, trouvais pas très clair par rapport à tout ce qui s'était déroulé avant. Et puis, j'ai préféré rester vraiment dans quelque chose d'assez simple. Après, le côté sentencieux, je l'ai plus utilisé dans le côté poétique de l'ordre de la scansion. Une amie m'a dit l'autre jour que ça lui avait tout de suite fait penser à l'Odyssée.
Ah oui.
Et je trouvais ça assez beau. Donc c'est vrai qu'il y a ce rythme-là, la sentence aussi, elle a ce côté très scansion comme ça, définitif. Donc je l'ai habilement ignoré.
Elle s'appelle Karen Ichters, elle a dessiné Présence de la mort, le roman de Ramu, publié donc en roman graphique dans cette collection étonnante qui se propose de mettre en image des romans de Ramu. C'est la collection Adaptation et c'est publié chez Helvétique. On va la retrouver d'ici quelques instants après ce titre signé Moïc Tani, voici Jour de fête.
Choisis.
Moïtani dans Vertigo avec Jour de fête. On retrouve notre invité Karen Ichters. Avec vous, Karen Ichters, on parle de Présence de la mort, votre roman graphique publié chez Helvétique dans le cadre de cette collection qui s'intéresse aux auteurs d'ici et que l'on met en dessin. J'ai pas dit en BD, mais j'ai bien dit en dessin. On a évoqué la langue de Ramu, la manière dont vous vous en êtes emparé, la façon dont vous avez découpé ce texte, comment vous avez procédé aussi pour le représenter, pour le dessiner, pour l'imaginer. On rappelle brièvement l'histoire. Nous sommes quelque part dans les années 20-30 et en raison d'un phénomène cosmique inexpliqué et inexplicable, la Terre est en train de se rapprocher du Soleil. Il va petit à petit aller se fondre et disparaître dans ce Soleil. Et donc la température sur Terre augmente d'un degré par jour. Bref, en résumé, c'est la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est pas la première fois que Ramu s'empare du Soleil comme une sorte de thématique, comme ça présente dans ses romans. Il y a « Si le Soleil ne revenait pas » qui, effectivement, parle aussi d'une sorte de prédiction un peu apocalyptique, messianique, dans laquelle un homme annonce à ses contemporains que c'est foutu, le soleil ne reviendra plus et qu'allons-nous devenir. Et dans celui-ci, eh bien, le soleil, lui, ne disparaît pas, mais au contraire, va quand même causer la perte de l'humanité en dévorant petit à petit notre planète. Alors, il y a tout ça, et puis il y a ce qu'on en fait. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est tout d'abord, qu'est-ce qui a été difficile pour vous et qu'est-ce qui a été facile, Karen Ichters?
La difficulté a été vraiment très terre à terre, c'est-à-dire que je ne sais pas tout dessiner. Donc il y a des scènes pour lesquelles j'ai dû trouver des petites pirouettes de dessin pour qu'on ne voit pas trop.
Que vous ne savez pas le faire, c'est ça? Mais oui, quelles oui, scènes, oui. Par exemple?
Oh, des scènes de foule, par ouais. exemple. Trouver un angle, trouver des solutions.
Comme au cinéma, quand on n'a pas assez de figurants, on resserre,
exactement,
on fait,
mais oui,
on ruse.
Une petite ficelle, ouais. oui. Et puis, sinon, l'autre difficulté, ça a été de ne pas être trop anachronique par rapport à l'époque. En tant que Lausannoise, j'avais vraiment quand même envie d'être juste par rapport à l'époque. Pas mal de recherches sur des banques d'images historiques des archives et du musée historique de Lausanne, qui sont disponibles en ligne. Et c'est vraiment merveilleux de se plonger là-dedans. D'autres sites comme notrehistoire.ch, beaucoup de documentation trouvée grâce à ces sites-là. Parce qu'en fait, en faisant des recherches historiques, on se rend compte que des lieux que j'avais imaginés, en fait, parce que je les connais, finalement n'existaient pas encore.
Ah, il y avait la cathédrale, ça c'est sûr.
Oui,
mais tout autour.
Oui, mais la cathédrale n'avait pas la même flèche à l'époque. Bon, il y a ce détail-là par rapport à la cathédrale, mais après, Saint-François, par exemple.
La place Saint-François à Lausanne.
Voilà,
ouais.
Quand il commence à y avoir des agents de police qui gardent la banque, alors on se dit oui, ok, mais laquelle? J'ai découvert grâce à ces recherches qu'en fait, j'avais pas imaginé le bon bâtiment. Donc en fait, il faut imaginer tout un autre angle pour représenter la place Saint-François. La même chose avec le personnage qui, à un moment donné, va au cinéma. Il va dans quel cinéma? Parce que oui, de représenter n'importe quelle salle obscure, mais en fait, bon, il y a quand même aussi l'intérêt de faire ces recherches, parce que moi, ça m'intéresse aussi d'imaginer la ville à cette époque.
Il va dans un cinéma qui a vraiment existé à l'époque.
Oui. Ouais. Oui, enfin, en tout cas, je l'ai décidé.
Oui.
Mais, enfin, pour Ramu, oui, en tout cas, il l'avait en tête, et puis il dit qu'à un moment donné, il descend, enfin, il mange à Saint-François, et puis il descend une rue, mais en fait, est-ce qu'il descend la rue du Pont pour aller au Royal Biographe? C'est ce que j'ai décidé d'illustrer en fin de compte, où est-ce qu'il descend rue Chenet. Et puis en fait, bon, et voilà, après il faut voir quels étaient les cinémas de l'époque, mais aussi qu'est-ce qu'ils diffusaient.
Un western en l'occurrence.
Oui, ouais. Voilà, exactement. Et donc après, j'ai consulté des... J'ai oublié de citer Scriptorium, parce qu'après il y a des journaux de l'époque, où j'ai pu consulter des journaux de l'époque, et puis... quand même essayer de faire des affiches réalistes par rapport à l'époque, à ce qui était montré en été 1921. On peut se perdre dans ce genre de recherche.
En effet, oui. Et qu'est-ce qui a été facile pour vous, Karen Ichters?
Mais je crois que tout a été assez facile, en fait, parce que c'était assez intuitif. Ce qui est le plus difficile, je crois que c'est quand même sur ce genre de projet qui est long, c'est de ne pas jeter tout ce qu'on a fait au début. C'est-à-dire qu'on progresse forcément, mais sur le temps long. Et puis, des fois, on a un regard différent sur ce qu'on a fait il y a 6 mois. Donc, il faut adapter, il faut rechercher quand même une cohérence graphique pour avoir un objet qui soit pas trop différent du début à la fin. C'est peut-être une étape un peu plus compliquée. Ce qui est difficile, c'est de tenir le délai. Je crois que c'est ça qui a été le plus difficile.
Est-ce que vous avez le sentiment, Karen Ichters, qu'une collection comme celle-ci, qui s'intéresse à la mise en avant d'auteurs par le biais du roman graphique, peut amener les gens vers la littérature, ou est-ce que c'est un ouvrage complet d'une certaine manière?
Je pense que c'est plutôt un ouvrage complet. Bon, en tout cas, en ce qui concerne celui-ci, où c'est vraiment le texte de Ramu, mais celui qu'il a remanié dans les années 40, je pense que ça peut offrir un premier accès à Ramu, effectivement. Mmh. Le danger, la difficulté, c'est quand même, je trouve, de garder, en fait, et ça je réponds peut-être encore, je complète un peu la question d'avant, c'est quand même de conserver l'essence littéraire de Ramu. Parce qu'évidemment, c'est une histoire en images, un roman graphique. Mais on peut pas enlever cette langue, on peut pas enlever la littérature. Sinon, c'est juste, on garde juste l'histoire. Donc ça, c'est la difficulté aussi. C'est de garder l'auteur, en fait.
Et vous-même aussi?
Oui.
Parce que il y a votre trait, votre expérience, votre passé, la personne que vous êtes, votre envie de dessiner peut-être d'une certaine façon, mais tout ça s'entrechoque avec la langue de Ramu, avec la langue de cet auteur qui est si particulière, et il faut que chacun y trouve son identité.
Oui, j'ai jamais senti de difficulté avec ça, en fait.
Vous n'êtes pas battu avec Ramu?
Je me suis pas du tout battu avec Ramu, non. Non, je crois que...
Une bonne entente.
Oui, on s'est bien entendu.
Karen Ichters, merci d'avoir passé ce moment avec nous pour parler ensemble de Présence de la mort, votre roman graphique publié chez Helvétique. Vous serez le 12 juin à la librairie Sacré Bulle, c'est à Yverdon.
Oui.
Et vous serez également le 21 juin chez Payot à Morges. Voilà, vous continuez votre parcours dans les librairies en signature et en présentation de cette, j'allais dire BD, mais non, c'est un roman graphique. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.
L'actu culturel dans Vertigo.
Le Danube bleu de Johann Strauss était devenu la musique emblématique d'un film qui ne l'était pas moins, 2001 à l'Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick en 1968. Ce Danube bleu de Strauss sera envoyé dans l'espace, pour de vrai cette fois, interprété par l'Orchestre Symphonique de Vienne, ce mois-ci pour marquer le 200e anniversaire de la naissance du compositeur. L'œuvre sera diffusée dans le cosmos par des signaux radio depuis l'Espagne, signaux qui atteindront la Lune en 1 seconde et demie, Mars en 4 minutes, Jupiter en 37 minutes, Neptune en 4 heures. C'est super loin, Neptune. Qu'est-ce que le DJ Cosmique nous enverra en retour? Mystère sur le mix. Le cinéaste iranien Jafar Panahi a été accueilli par ses partisans sans être inquiété hier à l'aéroport de Téhéran, après avoir remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes. Après des années pendant lesquelles il a été empêché de quitter l'Iran, réaliser des films clandestins, passer plusieurs séjours en prison, le cinéaste est donc sorti sans encombre de l'aéroport international de Téhéran. Applaudissements, étreintes, bouquets de fleurs, alors que le gouvernement convoquait le chargé d'affaires français à Téhéran pour ses propos saluant la palme décernée à Panahi contre l'obscurantisme du régime. Le film raconte l'histoire de 5 Iraniens confrontant un homme qu'ils croient les avoir torturés en prison, une histoire inspirée par le vécu de Panahi en détention. La ville de Vevey met à disposition des artistes locaux 5 murs destinés à la pratique du graffiti libre, et ce dès le 4 juin. Les murs en question sont déjà utilisés depuis plusieurs années par les graffeurs, et cette démarche vise à contribuer au développement du label Vevey Ville d'Images. Des ateliers seront même mis en place à l'occasion de la journée de lancement.
C'était l'actu culturel de Vertigo, à retrouver sur Play RTS.
Et avec vous, Michel Ndezé, on va s'intéresser à ce photographe. Il s'appelle Colin Delfosse, c'est bien juste?
Exactement.
Vous avez pu converser avec lui, il est journaliste, photographe belge. Il expose des œuvres jusqu'au 15 juin à la Galerie Focale de Nyon, sous le titre « Foulou Act Kinshasa incarné ». Alors, vous avez tout nous expliqué, j'ai pu voir quelques clichés, c'est très impressionnant, très beau, autant les photos que les sujets.
En effet, alors, Colin Delfosse expose, comme vous l'avez dit, une série de photographies de performeurs aux costumes impressionnants, prises dans la capitale de la RDC, Kinshasa, qu'on appelait jadis Kin Label. Mais ça, c'était avant que les habitants des quartiers populaires, lassés du manque d'infrastructures et des déchets qui s'accumulent partout, surnomment la ville Kin la poubelle.
En effet, ça donne une image assez claire de leur environnement.
Oui, oui, oui. Mais c'est souvent dans un terreau de manque que poussent les plus belles créativités, hein, Pierre-Philippe.
C'est vrai.
En Afrique, cela fait bien longtemps qu'on recycle ces déchets qu'on appelle foulou en lingala. Les vieilles jantes de camions deviennent des poids pour les salles de musculation. Les pneus usés deviennent des sandales. C'est donc tout naturellement que dans divers domaines artistiques, on a épuisé dans ces mêmes déchets pour créer des œuvres qui, du coup, dénoncent les conditions de vie des Kinois.
Oui, c'est l'air de la débrouille. Donc, l'idée, c'était, comme je disais, de parler de sujets qui touchent directement les 15 voire millions, voire plus d'habitants de la capitale congolaise. Et ces sujets-là sont fortement liés à la pollution et à la consommation d'objets du quotidien. L'accès aux objets en plastique et au vu de la grande population congolaise, ça présente un enjeu en termes de traitement des déchets et qui se retrouve un peu partout. Enfin, voilà, c'est la première chose qui saute aux yeux quand on va à Kinshasa aujourd'hui. C'est à quel point ça a vraiment ravagé, on va dire, la ville. Et donc oui, ces artistes-là se sont appropriés ces déchets pour en créer des costumes et donc oui, fabriquer toutes sortes de costumes à partir de ces objets pour dénoncer justement la population, mais il y a aussi d'autres sujets qu'ils abordent.
Alors parmi les costumes les plus impressionnants qu'on peut voir dans l'exposition, il y a celui de Junior Mugongo, réalisé avec des tubes PVC. Ah, il est beau celui-là, hein. Des tubes PVC de différentes tailles qui ensemble forment un genre de pieuvre humanoïde. C'est assez étrange. Il y a le Robocop de Jean-Percy Numbi, plus vrai que nature si j'ose dire. Ou encore le costume de cosmonaute de celui qu'on appelle justement Congo Astronaute.
Ah oui, c'est le premier performeur que j'ai pu rencontrer à Kinshasa. Il y a déjà c'était il y a presque 6 ans. Hein. C'est un des premiers performeurs sur la scène congolaise. Et puis par la suite, j'ai rencontré les artistes d'un collectif qui s'appelle Ndaku La Vie Belle, qui organise notamment le festival Kin Act. Et donc c'est via eux que je suis rentré dans on va dire dans la mouvance de la performance congolaise. Et puis d'autres collectifs de performeurs qui se sont créés par la suite et qui existent encore aujourd'hui, qui créent d'autres festivals. Je pense notamment à Kinetelemi qui chaque année aussi propose des séries de performances dans la ville. Alors qui sont parfois en costume, parfois pas. En fait, c'est voilà. Il n'y a pas que le costume dans la performance, mais malgré tout, ça reste un élément essentiel et surtout très visuel dans leur manière de travailler. Et donc, c'est ça que je vais vous mettre en avant.
Alors, il y a aussi cette démarche de recyclage des déchets donc pour créer de l'art, mais ça existe aussi, vous me disiez, en musique au Congo.
Exactement, il y a par exemple Staff Benda Bilili, ou alors le groupe qui reprend aussi la traduction en lingala de déchets dans leur nom, Fulu Miziki, que j'avais présenté aux auditeurs de la première il y a 2 ans, lors de leur passage par Paléo, je crois que vous n'étiez pas là.
Et non.
C'était Francesco Biamonte qui était à votre place.
Des instruments qu'on jouait dans Foulou. Quand on était des gamins, on faisait nos groupes, des groupes de gamins pour jouer avec des marmites, des trucs qui donnaient des sons. On avait déjà des sons parce qu'on aimait la musique. Et puis au Congo, il y a la musique.
Partout.
C'était vraiment à l'oreille. L'oreille musicale, ça va t'emporter pour faire la musique. Chez nous, c'est comme ça.
Pour terminer en musique, du coup, les Fulu Miziki viennent de sortir un nouveau single qui se nomme Tia Mungwana Biloko. Il annonce un nouvel EP, Fungola, prévu pour le 15 juin. Le 15 juin, c'est la date butoir avant laquelle il faut aller voir donc le Colin Delfos à la Galerie Focale à Nyon.
Merci, Michel, on les écoute. Tia Mungwana Biloko, ça veut dire « Mets du piment dans ta vie », signé Fulu Mizuki. C'est un nouveau single, il vient de sortir, il annonce un nouvel EP Fungola, prévu pour le 15 juin. Je vous rappelle que cette exposition de Colin Delfos sur cet art de la récupération pour faire de l'art à Kinshasa, c'est à voir jusqu'au 15 juin également à la Galerie Focale de Nyon.
Tout a commencé il y a quelques années, un début de fatigue, un agacement naissant, à devoir encore expliquer que je désire être rémunérée pour enregistrer sur le disque de telle ou telle personne, ou pour aller faire un concert. Un sentiment grandissant de sidération, résultant de la croyance si éloignée que l'on se fait de la vie d'artiste. J'entends toujours ce son piternel, c'est beau de vivre de sa passion.
La voix de la violoncelliste professionnelle Sarah Oswald, elle lisait son propre texte rédigé il y a quelques semaines. Il a été largement diffusé et repartagé sur les réseaux sociaux. Elle l'intitulait « Invisible » au pluriel, en référence à l'invisibilité, à la solitude d'être une artiste, musicienne et de ne pas pouvoir vivre de son art. À la suite de cela, la musicienne a mis en ligne un sondage adressé à tous les artistes des musiques actuelles de Suisse romande. On va en parler avec vous, Leila Chansky. Quelle est la teneur de ce questionnaire ?
Le but pour Sarah Oswald, c'est d'en faire un manifeste, largement diffusé et associé à la publication d'un article dans le journal Le Temps, avant les festivals de l'été. Plus d'une centaine d'artistes ont répondu aux questions du sondage. Des questions du type « Qu'est-ce qui est difficile dans votre pratique de musicien ?» ou encore « Est-ce que vous pouvez vivre de votre pratique hors enseignement au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire à plus de 2315 francs par mois ?» Les réponses se recoupent et ce qui ressort, c'est le besoin criant de faire exister un statut d'artiste musical. Sarah Oswald, elle a suivi un parcours à l'EMU à Lausanne, terminé un master en violoncelle baroque, sorti des albums, collaboré pour la TV, pour le cinéma. Bref, elle exerce ce métier depuis 23 ans. Aujourd'hui, c'est une musicienne indépendante, elle n'enseigne pas et elle souhaite vivre de ses concerts, de ses disques, de sa création. Je l'appelle et lui demande comment elle explique sa difficulté à ne pas réussir à vivre alimentairement de son art.
Alors j'arrive à vivre de ma musique, mais vraiment très très clairement en dessous du seuil de pauvreté. Et je me l'explique parce que, pour plusieurs raisons, les cachets qui sont vraiment extrêmement bas encore aujourd'hui, alors que le coût de la vie a bien augmenté, mais en fait les cachets n'ont absolument pas augmenté depuis environ une trentaine d'années. Et on doit toujours se battre en fait pour qu'on puisse avoir un cachet de 400 francs, ce qui est vraiment extrêmement peu. Et en fait ce cachet de 400 francs regroupe par exemple tous les frais qui sont liés au concert, ça veut dire déjà les frais de transport, les frais de répétition, les frais de semaines de préparation, de booking, d'administration autour du concert. Et en fait, tout ça est compris dans 400 francs. Et je pense qu'il y a aussi d'autres problèmes. C'est par exemple le fait qu'on soit représenté sur les plateformes type Spotify, type Apple Music, etc. En fait, on ne reçoit aucune rémunération ou très, 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 très peu de rémunération lors des streamings, hein, alors qu'en fait, des abonnements sont perçus à plus de 15 francs et on ne touche jamais rien.
Sarah Oswald, à propos donc de la publication de son texte Invisible, elle y raconte comment certains mois, elle doit vivre avec la somme d'un seul cachet, donc d'un seul concert. Et ce texte qu'elle écrit, c'est un cri du cœur, elle s'explique.
Parce que je vois qu'à 47 ans, de gagner 400 francs par mois, par moment, c'est extrêmement compliqué. Enfin, de toute façon, c'est de toute façon extrêmement compliqué de gagner 400 francs par mois. Et que sans les subsides de l'assurance maladie, c'est vraiment impossible de vivre essentiellement de la musique que l'on produit aujourd'hui en Suisse.
Comment ça se fait que dans la musique actuelle, parce que là, c'est ce dont on parle pas de musique classique, on parle de musique actuelle, comment vous expliquez ça ?
Je pense que le problème vient en partie du fait qu'on est de plus en plus précarisé. Ça veut dire que moi, j'entends parfois des amis musiciens, musiciennes qui disent, on m'a proposé 150 francs de cachet, en ce moment, j'ai tellement rien qu'en fait, j'ai accepté. Et je pense que ce genre de choses, que je ne juge évidemment pas, parce que on est toutes et tous dans cette précarité, je pense que tout ça dessert complètement à la profession.
Je m'appelle Danitza, je suis chanteuse et j'habite à Genève. c'est très compliqué de vivre de sa musique. Moi, je vais pas les cacher. Hein. Je vis encore chez mes parents. Donc tout ça, j'ai la chance d'avoir voilà une famille qui me soutient financièrement. Après, oui, j'ai des revenus, mais je pourrais pas me permettre voilà de prendre un appartement, de payer mon assurance, de partir en vacances comme ça. C'est parce que bah, toute mon énergie, mon temps, mon travail, je l'investis dans la musique. Et malheureusement, voilà, je gagne pas encore assez. Il y a pas le tourbus. Non, on est en petite voiture 4 places, tu vois.
Je m'appelle Céline Frey, on me connaît aussi sous le nom de Lynn M. Je suis chanteuse, mais je suis aussi autrice, compositrice. Et on m'a vue avec des projets comme Aloane il y a plusieurs années, ou plus récemment avec Helvet. This is the day, this is the day. En fait, de faire un morceau, ça coûte super cher. En fait, ça coûte très cher déjà en temps de création. De nouveau, ça c'est un temps qu'on ne se paye pas parce qu'il n'y a pas les moyens et qu'on n'a pas les ressources pour se les payer. Donc c'est du temps qu'on prend souvent bénévole. La musique, c'est pas gratuit. Ça devrait l'être. Moi aussi, je trouve que l'art devrait être gratuit. Mais dans ce cas-là, il faudrait que nous trouver un moyen pour rémunérer les gens qui le font pour qu'ils puissent simplement vivre comme tout le monde et payer leur loyer. Bon, bah, alors moi, j'ai commencé à faire du théâtre il y a quelques années et la première fois que j'ai reçu mon contrat de travail avec le montant dessus, c'était marqué 5800 francs. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience du gap immense qu'il y a entre la musique actuelle et d'autres secteurs culturels.
Les salles ou les festivals qui nous engagent, les fonds auxquels on a accès pour demander des soutiens, les institutions qui engagent les musiciens n'ont pas plus d'argent à disposition pour rémunérer les musiciens locaux qu'elles engagent. Par rapport à d'autres arts de la scène, on est clairement le parent pauvre. Donc même quand on est soutenu, les gens qui attribuent les subventions, bah, ils ne peuvent pas attribuer plus de subventions que ce qui est alloué à ce milieu-là. Donc ils ne peuvent pas donner plus.
C'était la harpiste Julie Campiche. On a entendu plutôt la rappeuse Danitza ainsi que Céline Frey du groupe Helvet. Et tout ce que vous avez entendu, eh bien, ce sont des extraits sonores issus de capsules vidéo disponibles sur le site internet de la Fédération Genevoise des Musiques de Création, la FGMC, une association qui voit le jour en 2019, Leïla.
Oui, elle naît du constat que la scène des musiques actuelles est de plus en plus précaire. Son but, c'est d'améliorer les conditions de travail des artistes et de sensibiliser le public. Après une récolte de données en 2020 sur les finances de 200 musiciens et musiciennes romands, deux solutions majeures se dessinent. La première, construire une grille tarifaire qui prend en compte tous les aspects de la création d'un concert. Ça veut dire la répète, le temps de composition d'un morceau, le transport pour se rendre au concert, etc. La deuxième, le statut. Être salarié et non pas indépendant. Et pour être salarié, deux solutions, être engagé par une structure de production comme une compagnie ou alors s'adresser à une location de service. La présidente de la Fédération Genevoise des Musiques de Création, Leïla Kramis, nous explique.
On s'est inspiré de ce qui se faisait déjà dans la danse ou dans le théâtre, où il y a des compagnies qui assument la responsabilité d'un projet. Et puis après, les comédiens, les danseurs sont la plupart du temps engagés par ces compagnies ou engagés par des théâtres. Et justement, on s'est rendu compte que c'est des processus, dans une certaine mesure, qui pouvaient être applicables aussi à la musique. Le statut de salarié étant beaucoup plus protecteur, permettant d'accéder à des assurances sociales que le statut d'indépendant ne permet pas, ou qui permet sur une base volontaire, mais très onéreuse, on a décidé d'explorer ces pistes-là.
En 2023, vous éditez une sorte de petit livret. Il y a des recommandations, des grilles tarifaires dans le domaine des musiques actuelles de création à Genève. Et par exemple, j'ai noté deux chiffres. Un concert isolé, ça serait 697 francs. Un salaire mensuel brut, ce serait 4958 francs.
C'est déjà bien plus que ce que gagnent actuellement les musiciens, parce qu'ils sont quand même pour la plupart en dessous du seuil de pauvreté. Ces recommandations, en fait, nous, on a voulu chiffrer la valeur du travail des musiciens. Donc, pour un concert, il n'y a pas que la partie visible, il y a également toute la partie de répétition, il y a aussi parfois une partie de création. Donc, il faut vraiment tenir compte de tout cet ensemble. Et puis, on a mis une valeur. Et puis ça nous sert de base pour aller ensuite aussi discuter avec les organisateurs et espérer que le travail de performance scénique soit un petit peu mieux, soit en fait beaucoup mieux rémunéré.
Dernièrement, ces derniers mois notamment, il y a pas mal de voix qui se sont élevées sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette précarité, la difficulté à obtenir le statut de salarié, les gigs mal payés. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ce mouvement qui se fédère, même si c'est des mouvements voilà, sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que ça vous fait ?
On est vraiment absolument très content que d'autres musiciens prennent la parole dans d'autres cantons, dans la Suisse. Pour nous, c'est un peu le premier pas vers une fédération, vers un peu plus de solidarité entre les musiciens pour mettre sur pied des actions concrètes. Quelque part, notre système fédéral fait que l'essentiel des moyens pour la culture est concentré dans les villes et les communes et les cantons. Donc, on a besoin d'actions qui se fassent aussi au niveau local. Et pas seulement au niveau fédéral, parce qu'au niveau fédéral, il y a des fêtières. Et c'est vrai que le fait que les musiciens commencent à prendre la parole et puis à souhaiter se réunir, à attirer l'attention dans différents cantons sur leurs conditions de travail, ben ça va peut-être mener à des petites fédérations ailleurs, on l'espère vivement.
En fait, la création a une valeur au niveau de notre société, au niveau humain. L'art est un bien public, ça fait partie d'une société saine d'esprit, saine de cœur. Et donc c'est normal en fait que ce soit quelque chose qui soit pris en charge par la collectivité.
C'était Julie Campiche que vous venez d'entendre, la harpiste.
Avec son trio.
Oui, ouais,
c'est ça.
C'est ça, exactement. Auparavant, vous avez entendu Leila Kramis, qui est la présidente de la FGMC, la Fédération Genevoise des Musiques de Création. Et puis également, donc, les témoignages de Sarah Oswald, la violoncelliste, Danitza, la rappeuse, Céline Frey, la chanteuse d'Helvète, qui s'exprimaient sur leur situation d'artiste précaire dans les musiques actuelles. Merci, Leila Chansky.
Merci.
Un sujet à retrouver sur l'application Play RTS, mais également sur notre page rts.ch/vertigo. On se quitte avec le coup de cœur de notre programmateur Bastien Arnold. Voici Youssoundour, c'est une nouveauté, Boule Malage.
Chérie, boule malade. pour le malade.
Idéal pour cruiser sur les boulevards de Dakar. Mmh, Youssou N'Dour, Boule Malage, cet extrait de son nouvel album. Et c'est le coup de cœur de notre programmateur, Bastien Arnold.
Les émissions de la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 4h.